Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ce matin, nous allons commencer une série spéciale d'études que nous prévoyons de faire depuis des mois. Nous avons terminé le chapitre 3 de 1 Corinthiens la semaine dernière. Nous nous apprêtons à débuter le quatrième chapitre de 1 Corinthiens. J'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière qui m'a dit qu'il s'était absenté de l'église pendant un long moment, parce que très malade. Quand ils sont revenus, et ils ont dit, « Nous n'arrivions pas à y croire. Vous étiez encore à Corinthiens. » J'ai donc répondu, « C'est exact, et je vais y rester encore pendant un moment. » Mais en étudiant cette portion particulière des chapitres 12 à 14, qui traite de la question des dons spirituels, le charismata, si vous préférez le terme grec, nous avons ressenti, à cause de vos très nombreuses questions, et du fait de la confusion plutôt répandue par rapport à ce sujet particulier, qu'il valait mieux s'arrêter entre les chapitres 13 et 14 avant d'aller en détail dans le domaine des langues, comme cela est fait au chapitre 14, afin de traiter la question du mouvement charismatique dans son ensemble. Je voudrais par conséquent faire une série spéciale pendant plusieurs semaines. Le Seigneur seul sait combien de temps il faudra pour que je couvre le sujet que j'ai à cœur de couvrir. J'ai ressorti les grandes lignes et je les ai plutôt bien travaillées, mais j'ignore comment cela va se répartir. Nous voulons parler de ce qui ne va pas avec le mouvement charismatique. Cela va être différent de ce que vous avez l'habitude de recevoir de moi. Si vous êtes visiteur ici, sachez que ceci sort un peu de nos habitudes. En général, nous étudions un verset après l'autre et parcourons directement le texte, mais à ce stade, nous allons examiner quelque chose dans un domaine un peu différent. Et je tiens à clarifier un certain nombre de choses pour commencer. Premièrement, ce n'est pas manquer d'amour que j'aborde ce sujet. Je crains que pour certaines personnes, aborder un sujet qui fâche soit une manière de se montrer volontairement méchant. Je prie et j'ai confiance que vous ne penserez pas cela de moi, parce que me montrer malveillant n'est pas du tout mon intention. Je pense que la chose la plus aimante que l'on puisse faire consiste à défendre la vérité et la véracité de l'Écriture. Parce que c'est cela l'acte ultime d'amour envers Dieu, défendre sa vérité et sa parole. Je pense aussi que c'est avoir beaucoup d'amour que d'enseigner sa parole, car en enseignant sa parole aux gens, ceux qui la reçoivent se retrouvent en position d'obéissance à la vérité, qui s'avère être la position de bénédiction. Enseigner la vérité est donc tout sauf malveillant. Ce n'est pas du tout parce que nous nous opposons à certaines autres églises ou groupes de notre région. Ce n'est pas parce que nous avons un groupe de personnes dans notre église qui est mêlé au mouvement charismatique. Ce n'est pas pour une quelconque de ces raisons que nous le faisons, mais tout simplement parce que nous devons enseigner la vérité. Et comme l'apôtre Paul l'a dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et le mouvement charismatique, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a une telle portée et une telle ampleur. Il est si puissant et constitue une force si dominante de la chrétienté qu'il serait bon que nous évitions d'enterrer notre tête dans le sable, mais que nous traitions plutôt la question de manière réaliste, biblique et théologique, à partir de ses fondations. Et c'est exactement ce que nous voulons faire. Je suis convaincu qu'il y aura des réactions négatives. Il y en a déjà eu. On m'a accusé au cours des deux semaines précédentes d'être malveillant et séparatiste, et ainsi de suite. Ce n'est pas mon intention. Absolument pas mon intention. Franchement, j'écoutais un orateur l'autre nuit qui disait, je ne sais plus mot à mot, mais il disait la même chose. Il trouve curieux, et moi aussi, qu'on accuse une personne de susciter des divisions, tout simplement parce qu'elle parle d'une division qui est déjà là, et tente de la régler avec la vérité. Il y a déjà un clivage au sein de l'Église. Il y a déjà une grande division à ce sujet. Je ne suscite pas la division. Je tente de clarifier la question avec la vérité, et je ne me berne pas d'illusions en me disant que je suis dans le vrai et que tous les autres se trompent. Je vais me contenter d'essayer d'aborder la chose selon la compréhension que j'ai des Écritures. Je souhaiterais donc que vous receviez cet enseignement avec un esprit bien disposé, et comme je l'ai dit la dernière fois, je ne vous demande pas de prendre ces DVD et de courir partout, comme un revenant vert, pour les déposer dans les boîtes aux lettres charismatiques, etc., dans des enveloppes marron. Ce n'est pas mon intention. Notre esprit d'amour importe autant que notre fermeté vis-à-vis de la vérité, et nous voulons de ce fait garder l'équilibre. Après avoir dit ce qui précède en guise de préliminaire, nous voulons parler de 20 éléments différents du mouvement charismatique, qui sont suspects à la lumière de l'Écriture. Nous allons le faire au cours des quelques semaines à venir, mais tandis que nous examinons globalement le mouvement, nous constatons qu'il se produit un certain nombre de choses étonnantes parmi les chrétiens dans ce mouvement. Si vous avez un téléviseur ou une radio, ou si vous visitez une librairie chrétienne quelque part, ou allez à un concert, ou une réunion chrétienne, ou une autre église, ou un autre service, ou n'importe quel groupe ou assemblée de chrétiens, vous prendrez suffisamment conscience de ce qui se passe en termes de revendications faites aujourd'hui par rapport au mouvement charismatique tel qu'il est connu, des affirmations surprenantes selon lesquelles Dieu opère des signes, fait des prodiges et des miracles, sont diffusées au moyen du bouche-à-oreille, à travers la page imprimée, la télévision, la radio, et un taux si prolifique qu'il n'est pas possible de les cataloguer, pour ne pas parler de les vérifier. Des rencontres fantastiques avec Jésus-Christ. Des gens m'ont personnellement dit qu'ils avaient eu des rencontres avec Jésus-Christ dans une forme physique, qui sont tout simplement très très fantastiques. Le Saint-Esprit qui rencontre les gens dans des circonstances particulières et étranges. Les guérisons de tout genre, certaines plus impressionnantes que d'autres, sont rapportées dans les médias chrétiens. Dieu est occupé à corriger des lésions de colonne vertébrale, à allonger les jambes, à guérir les cancers et à réparer les cœurs et ainsi de suite. Vous mettez votre téléviseur en marche et captez les différentes chaînes charismatiques. Et c'est curieux qu'il n'y ait aucune station de télévision, autant que je sache. Bien que c'était vrai, il y a de cela 2 ans, je ne pense pas que cela ait changé. Il n'y a en Amérique aucune chaîne de télévision chrétienne qui appartienne à des chrétiens non charismatiques. Ils se sont donc emparés des médias chrétiens, et si vous êtes au courant et visionnez cela, vous savez qu'il y a apparemment des présentateurs omniscients dans ces programmes télévisés charismatiques qui discernent les miracles, les guérisons et divers types de choses qui se produisent pendant qu'ils sont assis là, et vous les avez entendus dire. Quelqu'un, quelque part, est en train d'être guéri de ceci, et quelqu'un, quelque part, est en train d'être guéri de cela, et je pense tout simplement que quelque part, quelqu'un est en train d'être guéri de ceci. L'autre approche que vous entendez, et je l'ai entendue à plusieurs occasions, est « Ce soir, il y a 15 guérisons du cancer disponibles pour les 15 premières personnes qui vont les réclamer, et il y a 5 guérisons de migraines à la disposition des 5 premières personnes qui croiront en Dieu pour les réclamer. » Et ainsi de suite. On a l'impression que les guérisons flottent dans l'air pour quiconque veut bien jeter son filet pour les attraper. Certains des miracles sont étranges. J'ai entendu parler de chiots qui auraient ressuscité, et des lave-linges qui auraient expérimenté la guérison. Et cela m'est parvenu à 2 ou 3 reprises. Des bouteilles de gaz remplies par le Saint-Esprit, des fuites de WC stoppées par un pouvoir miraculeux. Les gens s'étalent de tout leur long sous la puissance divine. Ils sont étourdis par Dieu. Et ça s'appelle « tomber dans l'esprit ». Il y en a qui ont des visions et des rêves, et des révélations et ainsi de suite. Une dame a dit avoir reçu un nouveau nombril. Un autre, du nom de Marvin Ford, a affirmé qu'il avait effectivement été au ciel, et était revenu pour pouvoir dire à tout le monde à quoi le ciel ressemblait. De telles expériences impressionnantes se bousculent pour faire la une de l'actualité. On a l'impression d'un dieu hyperkinétique, qui s'active à accomplir une performance surnaturelle qui n'aurait d'égal que la création en 6 jours et les plaies égyptiennes. Il n'a jamais été autant actif depuis les siècles passés. C'est extraordinaire qu'il arrive à tenir le coup à la vitesse où ses faits sont revendiqués. Le point basique de tout ceci semble bien sûr être l'enseignement charismatique selon lequel tous les chrétiens ont besoin d'expérimenter la sensation ou le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Ceci est également connu comme la seconde bénédiction. C'est souvent appelé « quelque chose en plus ». Un livre est d'ailleurs sorti sous ce titre, « Quelque chose en plus ». C'est supposé être indispensable pour tout chrétien qui désire expérimenter la plénitude de la puissance du miracle divin dans sa vie. J'écoutais un prédicateur charismatique bien connu cette semaine, qui était en train de dire que pour recevoir l'Esprit de Dieu, il faut recevoir le parler en langue. Et il disait, il ne s'agit pas de rechercher les langues, vous rechercherez en réalité la plénitude de l'Esprit, et le parler en langue en découle. Et il a dit, un moyen d'illustrer cela, et c'était intéressant parce qu'il n'a pas vraiment employé l'écriture, quoi qu'il en soit. Il a dit, quand vous allez à une boutique de chaussures, vous regardez à travers la vitrine, vous ne vous dites pas, j'aimerais acheter ces lacets. Vous vous contentez d'acheter les chaussures et les lacets viennent avec. Et disait donc, ce qu'on recherche en réalité, c'est d'acheter ou de payer ou d'acquérir la puissance de l'Esprit de Dieu, des chaussures de marche spirituelles avec leurs lacets qui viennent avec. Quant à moi, j'achète toujours des mocassins. Ainsi donc, et dans tous les cas, plusieurs chrétiens sont exposés à cela. Et malheureusement, vous vous souvenez lorsque nous avons étudié le livre de Colossiens, nous avons été très sensibilisés, je pense, sur le fait qu'il est très possible que les chrétiens se sentent intrigués par toutes ces choses. Je crois que plusieurs chrétiens se retrouvent dans le mouvement par intimidation parce qu'ils craignent de passer à côté de ce que Dieu accomplit. C'est quelque chose de très difficile et ils regardent franchement autour d'eux, peut-être bien de manière très honnête et objective, en essayant de trouver des réponses sans y parvenir. Et nous espérons, Dieu voulant, par la puissance du Saint-Esprit, que nous serons amènes de faire quelques suggestions susceptibles d'aider. Mais si vous êtes comme moi, la question qui vient naturellement dans mon esprit est « Je suis chrétien et m'efforce de mener ma vie chrétienne de manière à plaire au Seigneur. Je n'y arrive pas toujours, mais je connais mes motivations. Je sais que je suis dans le ministère et que je connais la parole de Dieu et que j'aime le Seigneur. Alors pourquoi ne remplit-il pas ma bouteille de gaz? Pourquoi ne guérit-il pas ma machine à laver? Pourquoi est-ce que je ne reçois aucun miracle particulier? Pourquoi ne suis-je pas encore monté au niveau le plus élevé de la félicité spirituelle? Pourquoi n'ai-je pas encore reçu mes chaussures de marche spirituelles, si cela constitue la norme pour quiconque atteint une position d'utilité spirituelle? Eh bien, ce qui se produit dans ce truc, c'est qu'on divise l'Église avec ceux qui sont nantis spirituellement et ceux qui n'ont rien sur le plan spirituel. Et voici la tragédie de la chose. Ceux qui en sont pourvus ne peuvent pas s'empêcher d'avoir un certain sentiment de supériorité sur ceux qui ne le sont pas. C'est un peu comme une construction, et quand bien même ils résisteraient à cette tentation, la combattraient, et que certains y parviendraient, la grande majorité des gens ne peuvent pas s'empêcher d'avoir le sentiment que tout le monde passe à côté de quelque chose qu'eux expérimentent. Je suppose que je dois dire que je fais partie de ceux qui ne vivent pas ces choses, et que de temps en temps, je me sens un peu intimidé par cela. Mais je me demande si l'intimidation ne frappe pas dans les rangs charismatiques. J'ai bien peur que certains parmi eux soient intimidés. Certains d'entre eux sont peut-être tentés d'exagérer, ou de dramatiser, ou de fabriquer des miracles, à cause de la pression du groupe, et du désir de faire partie, eux aussi, de ceux qui témoignent de ces choses plutôt étranges et bizarres. Maintenant, ce genre d'intimidation spirituelle est très puissante, mais pas nouvelle. Cela se produit depuis longtemps. Comme nous l'avons vu dans notre étude de Colossiens, et j'attirerai votre attention sur le livre de Colossiens, au second chapitre. J'aimerais vous montrer certaines choses dans cette portion particulière de l'Écriture, qui vous aidera à consolider ce que nous disons dans votre pensée. Colossiens, chapitre 2, constitue une formidable affirmation sur le fait que vous avez besoin de Christ et de rien d'autre, que Jésus-Christ est suffisant, et que rien de plus n'est nécessaire. Vous vous souviendrez que le chapitre 2, verset 10, dit « Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. » Et c'est cela la thèse de toute cette section de Colossiens, à savoir qu'un chrétien a Christ, et donc qu'il a tout. Il est le chef de toute principauté et de tout pouvoir, et vous êtes comblé en lui. Et il poursuit pour définir quelque chose dans cette plénitude au verset 11 à 13. Pourtant, les hérétiques, qui s'étaient mêlés dans la situation des Colossiens, leur disait qu'il n'était pas complet, que le salut et l'accomplissement de la vie chrétienne, et la maturité, et la spiritualité, et toutes ces choses, c'était Christ et quelque chose d'autre. Non pas Christ et rien d'autre, mais Christ et plus. Ce qu'il disait, c'est qu'on avait besoin de Christ avec, en plus, une philosophie humaine. Verset 8. Ainsi Paul dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous n'en avez pas besoin. Et ensuite il disait, c'est Christ et le légalisme. Et Paul déclare au verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Et d'autres disaient, observez à présent celui-ci, il s'agit du Christ et des expériences surnaturelles. Et Paul répond à cela au verset 18, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. En d'autres termes, les expériences mystiques et des visions. Et nous avons vu cela en détail dans toutes les terminologies grecques employées ici. Vous n'avez pas besoin du mysticisme. Vous n'avez pas besoin de tenir des conversations surnaturelles avec des anges pour compléter votre chrétienté. Vous n'avez pas besoin de faire des expériences étranges et bizarres. Il ne s'agit donc pas de la philosophie en plus du Christ. Ce n'est pas Christ plus le légalisme. Ce n'est pas Christ plus le mysticisme surnaturel. Paul dit, « Ne vous sentez pas menacé par une quelconque de ces choses. Ne soyez pas intimidés. » Et bien entendu, les Colossiens étaient tellement intimidés qu'ils étaient sur le point de balancer tout leur engagement à la plénitude du Christ et d'accepter cette hérésie. Et il dit, « Ne faites pas ça. Vous n'avez pas besoin de converser avec les anges. Vous n'avez pas besoin d'expériences secrètes. Vous n'avez pas besoin de faire des expériences approfondies. Vous n'avez pas besoin d'avoir des visions spéciales. Ne soyez pas intimidés. » J'ai entendu cette semaine, j'ai écouté beaucoup de choses en me préparant pour cette étude, et j'ai beaucoup lu. Mais j'ai entendu un monsieur dire, « Si vous n'expérimentez pas la victoire dans votre vie chrétienne, si votre vie chrétienne est criblée de difficultés, c'est parce que vous n'avez pas permis à Dieu d'agir à travers le boulevard qu'est le don des langues. » Voilà une chose très intimidante à dire aux gens, à savoir c'est parce qu'ils ne parlent pas en langue que leur vie chrétienne est un gâchis. Voyez-vous, cette intimidation n'est absolument pas quelque chose de nouveau. Je suis retourné au livre de Colossiens, et cela n'a d'ailleurs pas commencé à l'époque des Colossiens. Cela existait déjà avant. Imaginez-vous assis dans une pièce, et la salle en question est remplie d'adorateurs passionnés. Les chants pleins de zèle sont ponctués de cris de louange et d'une prière fervente. Tout à coup, quelqu'un à côté de vous se met à parler dans des syllabes rapides, qui sont complètement étrangères, un quelconque langage que vous n'avez jamais entendu. Puis quelqu'un d'autre se lève, et il parle. Et quelqu'un d'autre encore se lève, et il parle. Puis quelqu'un se met debout, et dans une voix forte et dramatique, dit, « Ainsi parle l'Éternel, repentez-vous. » Et il se lance dans une prophétie, et un certain nombre de personnes s'écroulent par terre, et on a l'impression qu'elles se sont évanouies. Où êtes-vous? Vous avez peut-être reconnu la scène. Vous dites, « Eh bien, je sais où cela se passe, John. Il s'agit d'une réunion de prière charismatique. » Parce que j'ai assisté à quelque chose de similaire. C'est typique de plusieurs assemblées charismatiques, aujourd'hui. Eh bien, aussi familier que cela puisse vous sembler, il ne s'agit pas du tout d'une réunion moderne des charismatiques. Vous venez juste d'écouter la description d'une réunion d'un groupe appelé les montanistes, au IIe siècle. Ils ont fait exactement la même chose, en suivant les pas de leur leader Montanus. Ils croyaient que chaque croyant constituait un canal de révélation spéciale. Que Dieu parlait à travers chaque croyant de manière spéciale. En guise de preuve, ils exerçaient des dons dramatiques du Saint-Esprit, incluant les prophéties et les langues, affirmant avoir été restaurés parce qu'il s'agissait des derniers jours. C'est la même revendication qui est faite aujourd'hui. Montanus enseignait une progression de la révélation. Il disait, « Dieu a commencé à se révéler à travers les prophètes de l'Ancien Testament. Il s'est révélé à travers les disciples du Seigneur. » Et il continue de se révéler, et de révéler sa parole dans le nouvel âge de l'esprit. C'est ainsi qu'il a appelé cela, le nouvel âge de l'esprit. Et dans le nouvel âge de l'esprit qui a commencé au IIe siècle, le Saint-Esprit parlait à travers la bouche de Montanus et de ses prophétesses et prophètes. Et il avait un impact immense sur l'Église de cette époque. Et il intimidait l'Église. Il disait, « L'Église est à présent pleine de deux catégories de personnes, les chrétiens spirituels, qui suivaient ses enseignements et disaient avoir des révélations directes de Dieu, et les chrétiens charnels, qui avaient seulement, et je cite, la lettre morte de la Bible. Il y avait ceux qui avaient et ceux qui n'avaient pas à Colosse. Et les gens étaient intimidés par ceux qui revendiquaient d'être de ceux qui en ont. Au IIe siècle, il y a ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas, les chrétiens spirituels qui recevaient encore des révélations et les charnels. Et ils étaient charnels, tout simplement, parce qu'ils n'avaient que la lettre morte de la Bible. Vous dites, Qu'est-il advenu des montanistes? Eh bien, ils ont été exclus de l'Église. Ils étaient présentés comme des hérétiques. Le Conseil de Constantinople, en 381 après Jésus-Christ, en a décidé ainsi. De même que lorsque les montanistes se repentaient et exprimaient le désir de revenir à l'Église, ils devaient être ramenés au sein de l'Assemblée très minutieusement, après une longue période de formation et d'examen, à cause du sérieux d'une telle hérésie. Et le mouvement charismatique moderne, et je dis cela honnêtement et objectivement et du point de vue historique, constitue du néo-montanisme. C'est une nouvelle forme du montanisme. Il ne s'agit pas d'une chrétienté historique. Quel que soit le nom que vous donnez à cela, il constitue un problème pour l'Église, et nous devons l'examiner de manière honnête et objective. Croyez-moi, je n'ai aucun compte à régler. Je cherche à savoir ce qu'enseigne la parole de Dieu. Je veux ce que Dieu a prévu pour moi et pour vous. Je ne partage pas ceci avec des motifs autres que le fait de faire de mon mieux pour comprendre la parole de Dieu dans sa pureté et son intention. Et j'aimerais donc que nous considérions ce sujet. À présent, j'aimerais établir quelques règles de base, et cela fait beaucoup en introduction. Restez donc branchés. Je souhaite donc fixer quelques règles de base. Premièrement, il ne s'agit pas d'une étude exhaustive. Mon intention n'est pas d'examiner et d'expliquer chaque miracle particulier et expérience de chacun. Mais c'est ce qui arrivera, inévitablement. Quelqu'un viendra me voir et dira « Eh bien, je connais une dame qui a fait ceci. Eh bien, je connais un homme, et voici ce qui s'est passé. » Regardez, quand nous aurons terminé avec cette situation d'étude, la réponse simple que j'apporterai à cette question sera « Écoutez, portez-leur cette information, ou alors, filtrez-la dans votre esprit, et expliquez ensuite ce qui s'est passé. » Car, si cela ne cadre pas avec la parole de Dieu, alors il existe d'autres explications en dehors de la parole de Dieu. Et elles pourraient être des myriades. Il n'y a vraiment aucun moyen pour moi de connaître chaque situation, et pourquoi c'est arrivé, et comment cela s'est produit, si j'étais Dieu, et ainsi de suite. Cependant, l'unique chose que j'aimerais faire, c'est de jeter les bases de la vérité, qui constitueront la fondation sur laquelle nous prendrons une décision. Cependant, Frédéric Brunner, dans son très excellent livre, intitulé « La théologie du Saint-Esprit », a dit ceci « Le test de tout ce qui se dit chrétien » n'est pas l'importance de son succès ou de son pouvoir, bien que ces éléments rendent le test plus impératif. Le test est la vérité. » Fin de citation. Il a raison. Alors, première règle de base, ce ne sera pas une étude exhaustive qui essaiera de vous dire comment j'explique tout ce qui se passe. Deuxièmement, je me rends bien compte que tous les frères et sœurs charismatiques ne se retrouvent pas tous dans les catégories que je vais décrire. Quelqu'un me dira « Vous savez, j'ai un ami charismatique » qui ne fait pas ce que vous avez dit. J'en suis conscient, mais il y a tellement de différences. L'un des problèmes auxquels nous allons être confrontés dans ce mouvement, c'est qu'ils n'ont pas de doctrine, et parce qu'ils n'ont aucune théologie, on peut être de n'importe quelle dénomination, depuis le catholique romain jusqu'à l'autre extrême, et n'importe quoi entre les deux. Ce que vous voulez être, et pourtant être charismatique, étant donné qu'il n'y a pas de doctrine. Et c'est pour cette raison qu'une femme, ou quiconque le souhaite, un homme ou un enfant, tant qu'à faire, peut se lever au cours d'un service et déclarer ce qu'il veut. Et personne ne peut dire si cela est bien ou mal, ou neutre, puisque personne ne possède de règles en termes de doctrine, théologie rigoureuse. Je me rends donc compte que tout le monde n'entrera pas dans les catégories dont je parlerai. Cependant, j'essaierai de traiter des catégories générales. Je réalise qu'il y a de grandes différences, beaucoup de variations. Mais j'aimerais que nous regardions, et c'est ce que je veux que vous reteniez. J'aimerais que nous regardions le mouvement en face, tel qu'il est vu par le monde et par l'Église en général. Que voyons-nous? Certes, il y aura des exceptions, mais il est question de l'image générale que ce mouvement renvoie au monde. Troisièmement, et c'est la troisième règle de base, certains me critiqueront parce que je n'ai fait aucune expérience. C'est déjà arrivé. Howard Irvin, qui est un pasteur baptiste, qui a rejoint ce mouvement et a rédigé un livre à ce sujet, a dit ceci. Essayez d'interpréter les manifestations charismatiques du Saint-Esprit sans une expérience charismatique est aussi stupide que d'essayer d'appliquer l'éthique chrétienne en dehors d'une dynamique régénérée. Le Saint-Esprit ne révèle pas les secrets spirituels à des personnes non engagées. Fin de citation. C'est ainsi qu'il couvre ses pistes, en empêchant toute personne qui n'a pas fait d'expérience d'argumenter avec lui, conscient qu'une personne qui a fait l'expérience ne cherchera pas à s'opposer à lui dans une discussion. Je ne suis pas d'accord. Le problème n'est pas l'expérience. Ça n'a jamais été une question d'expérience. Qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu. Peu importe, si j'ai fait ou non l'expérience, si le Saint-Esprit constitue l'enseignant de la vérité qui vit en nous et que la parole de Dieu se trouve entre mes mains, alors j'ai tout simplement autant de droits que n'importe qui d'autre d'interpréter ce livre. Et par ailleurs, il avait complètement tort au sujet de l'expérience qui ne se produit pas avec les non-engagés. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom ? Et n'avons-nous pas fait cela en ton nom ?» Et il a dit, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Il s'agissait de personnes non engagées, et pourtant, elles avaient fait certaines expériences. Ma prière est que nous écoutions la parole de Dieu, c'est tout, et que nous soyons comme les gens de Bérée, ces nobles Béréens, dans Actes 17 au verset 11, qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. À présent, j'aimerais commencer avec le premier de tous ces 20 points ce matin, et nous n'allons même pas aller au-delà. Cependant, le reste ira plus vite. Il s'agit du point fondamental. J'ai le sentiment que le premier problème auquel le mouvement charismatique doit faire face, et ils doivent l'examiner très soigneusement et très attentivement, est la question de la révélation. La révélation, c'est le premier point. La révélation, et je veux dire par là, Dieu continue-t-il de révéler sa parole aujourd'hui ? Vous pourriez appeler cela « Où se termine la Bible ?» Dieu continue-t-il de nous donner l'Écriture, toutes ces visions et toutes ces expériences, et toutes ces choses qui se produisent, Dieu me parle, et Jésus me parle, et le Saint-Esprit a dit, et le Seigneur m'a parlé, et Dieu m'a dit. Vous entendez cela tout le temps. Dieu parle-t-il encore? Continue-t-il de parler? Donne-t-il encore la vérité absolument contraignante? Continue-t-il d'exposer sa parole, ou encore la Bible est-elle complète et terminée? Le problème de la révélation. Cette semaine, j'ai lu un livre intitulé « Dieu vous parle », ayant pour sous-titre « Comment reconnaître la voix de Dieu ». Ce que dit le livre, c'est que Dieu parle encore, et voici comment vous pouvez vous mettre en position de l'entendre, vous parler, et comment vous pouvez savoir s'il s'agit bien de lui. C'est juste un autre des nombreux livres qui affirme que Dieu donne encore la révélation aujourd'hui. Et j'entends les gens dire tout le temps cela. Le Seigneur m'a parlé. Dieu m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Un homme m'a dit récemment. Jésus est venu dans ma salle de bain tandis que je me rasais l'autre jour, et a mis son bras autour de moi, et m'a touché les épaules, et a calmé ma douleur. Et nous avons eu une merveilleuse conversation, et le Seigneur m'a révélé un certain nombre de choses. Vous voyez, c'est très intimidant pour moi, parce que je suis dans les parages depuis longtemps, et ça ne m'est jamais arrivé. Je vous ai parlé il y a quelque temps d'une lettre qui a été écrite à Bill Gaither, qui est un compositeur de chants, et j'aimerais juste le mentionner, parce que je pense que c'est une illustration utile qui a sa place ici. Bill Gaither a composé plusieurs merveilleuses musiques que nous aimons et apprécions, et de toute façon, mon intention n'est pas de l'impliquer dans le mouvement charismatique. J'aimerais juste m'en servir comme illustration pour vous montrer ce genre de choses. Une lettre a été écrite à Gaither lui demandant de clarifier, s'il le pouvait, la position théologique de la chanson « Le roi arrive ». Maintenant, nous connaissons tous la chanson « Le roi arrive ». La place du marché est vide, da-da-da, et nous sommes tous très enthousiastes au sujet de ce chant, parce qu'il parle de la seconde venue de Christ et ainsi de suite. Cependant, sa théologie est un tout petit peu confuse si vous l'étudiez. Et bien sûr, moi j'ai autant besoin de faire une exégèse sur les chansons que sur les versets de la Bible. Et donc, je suis assis là à penser. Au fait, toute cette affaire de théologie ne tient vraiment pas comme il faut. C'est un peu confus. Donc d'autres ont éprouvé le même sentiment, et apparemment, ils ont reçu tant de courriers sur la question, qu'ils ont rédigé une lettre standard, qu'ils ont adressée en réponse aux requêtes sur la doctrine de « King is coming », le roi arrive. Eh bien, il s'avère que j'ai reçu l'une d'entre elles, parce que quelqu'un d'autre a écrit et a demandé mon avis. Et voici ce que la lettre disait. « Pour ce qui est, il s'agit d'une citation. Pour ce qui est de l'interprétation de la chanson « The King is coming », cette chanson particulière a été un don du Seigneur. Bill et Gloria ne prétendent pas être des théologiens. La chanson leur est parvenue rapidement, et ils ne se préoccupent pas d'en discuter la théologie. En fait, ils ont le sentiment que disséquer la chanson reviendrait à entraver l'inspiration du Saint-Esprit qui a inspiré ce chant. Fin de citation. À plusieurs égards, il s'agit d'une réponse déconcertante. L'idée selon laquelle le chant serait, je cite, « venu rapidement », l'idée selon laquelle il est inspiré par le Saint-Esprit pouvait aisément conduire à la conclusion que les Gaither avait reçu une révélation divine, d'une nature surnaturelle, et cette chanson est véritablement la révélation 23, et devrait être ajoutée à la fin de la Bible. L'idée selon laquelle discuter de la théologie de la chanson reviendrait à entraver l'action du Saint-Esprit n'est pas loin de revendiquer un certain caractère infaillible pour la chanson. Et le fait est, bien aimé, que la chanson n'est pas conforme à la Bible. Elle ne donne pas l'impression d'être biblique. Vous dites, eh bien, avait-il réellement eu l'intention de revendiquer cela? J'en doute. Et s'il vous plaît, je ne cherche nullement à les déshonorer ou à les dénoncer, étant donné la merveilleuse contribution qu'ils ont faite. C'est juste que les gens de nos jours sont emportés dans une mentalité qui emploie des termes qui favorisent la perte du caractère unique et absolu de l'autorité de la parole de Dieu. Nous avons amené tout le monde à être plus intéressé à recevoir un message direct de Dieu qu'à examiner sa parole pour voir ce qu'il y a révélé. Ils n'ont pas reçu cette chanson à travers la révélation divine. Cette chanson n'est pas inhérente, infaillible et ne constitue pas une autorité. Ce n'est pas l'Écriture sainte et pourtant, ils utilisent toute cette terminologie qui pourrait pousser à penser que c'est véritablement le cas. Voyez-vous, il s'agit tout simplement d'une illustration claire de la confusion qui prévaut aujourd'hui lorsque la libre utilisation de la révélation et de l'inspiration est balancée à tout vent. On se demande donc, les chrétiens continuent-ils de recevoir l'inspiration du Saint-Esprit? Continuons-nous à recevoir l'inspiration de Dieu lorsque nous écrivons nos livres, lorsque nous prêchons? Mes sermons sont-ils inspirés? Je pourrais vous dire, « Oh, l'Esprit de Dieu m'a inspiré, et je vais vous donner un message de la part de Dieu, vous savez. » Et si je prends l'habitude de le dire trop souvent, il y a des chances que vous soyez quelque peu confus, au point de vous demander où s'est arrêtée la parole de Dieu et où John MacArthur a pris le relais. Le seul moment où j'ai un message de la part de Dieu, c'est quand je suis conforme à la Bible. Le reste du temps, il s'agit d'un paquet de bobards et j'en suis conscient. J'édite cela le lundi de manière à... Ceux qui s'occupent des cassettes reçoivent des trucs purs. Dieu parle-t-il encore? Eh bien, les charismatiques répondent oui. Et voyez-vous, pour moi, il s'agit d'une question vitale. Par exemple, Rodman William, qui est le président de l'école de théologie de Melodyland, et c'est un établissement qui grandit vite, et qui, très rapidement, est en train de devenir le séminaire charismatique le plus important du pays. Il en est le président, et c'est un fervent charismatique. Voici une citation tirée de son livre, « L'ère de l'esprit ». Il dit ceci, « La Bible est témoin avec nous de l'œuvre actuelle de Dieu. Avez-vous donc entendu cela? La Bible ne constitue qu'un témoin supplémentaire de l'activité actuelle de Dieu. » En outre, il dit, « Si quelqu'un a une vision de Dieu, du Christ de nos jours, il est bon de savoir que cela est déjà arrivé auparavant. Si quelqu'un reçoit une révélation de Dieu, il faut savoir qu'avec les premiers chrétiens, la révélation s'est également manifestée au sein de la communauté. Si quelqu'un déclare un, ainsi parle le Seigneur, quand bien même cela irait à l'encontre de l'Écriture, cela se produisait déjà depuis longtemps. L'Esprit, en tant que Dieu vivant, agit à travers et, écoutez ceci, et au-delà de tout ce qui a été écrit par les témoins du passé, aussi précieux soient ces écrits qui servent de modèle à ce qui se passe aujourd'hui. » Fin de citation. Vous savez ce que la Bible est par conséquent. La Bible constitue l'un des multiples témoins de l'activité divine. « C'est si merveilleux, déclare-t-il, que le Dieu vivant agisse au-delà de ce qui est écrit. » Il revendique par conséquent que la Bible n'est pas la dernière source de la révélation divine, mais elle est tout simplement, citation, « un témoin de la révélation supplémentaire qu'il accorde aujourd'hui. » Cela s'est produit par le passé, et ça arrive encore aujourd'hui. Nous pouvons ajouter des choses à la Bible. La Bible ne constitue qu'un, citation, modèle pour le genre de révélation que l'Esprit accorde aujourd'hui. Maintenant, mes amis, à mon avis, c'est une chose effroyable à dire. C'est si effroyable que cela détruit tout simplement les fondations de l'autorité absolue de la parole de Dieu. Nous ferions mieux de nous arrêter et d'examiner la signification de l'inspiration. Regardez 2 Timothée 3, verset 16. Dans 2 Timothée 3, verset 16, il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. » À présent, le terme qui est là « inspiré », nous devons l'examiner. Bill Gaither dit que son chant est inspiré. Rodman Williams déclare que les gens de sa congrégation sont inspirés. Toute écriture est donnée par inspiration. Le mot grec est théopneustos, issu de deux termes grecs, théos, Dieu, et pneustos, qui signifie à proprement parler souffle, exhalé. Ce qu'il dit, c'est que l'écriture constitue le souffle même de Dieu. L'écriture est le souffle de Dieu. C'est Dieu qui parle. à Moïse devant le buisson ardent, Dieu a dit, « Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » À Jérémie, Dieu a déclaré, « Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » À Ézéchiel, Dieu a dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. Reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras. » Et à travers les Écritures, 3808 fois, et revendiquer que l'Écriture constitue la parole même de Dieu, et être inspiré dans le sens biblique du terme, signifie prononcer les mots qui sortent de la bouche de Dieu. Cependant, cela est très loin de ce qui se passe aujourd'hui. Dieu a rédigé l'Écriture. Dans 2 Pierre, une fois de plus, on trouve dans le chapitre 1, verset 21, une autre indication au sujet de ce concept de l'inspiration. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Il est question de l'Écriture dans ce passage. Verset 20. Il appelle cela la prophétie de l'Écriture. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous avez déjà jeté un bâton dans un ruisseau et l'avez regardé partir. Eh bien, c'est ainsi. Emportés, transportés, déplacés, ils écrivaient parce que l'Esprit de Dieu les guidait. Ils écrivaient parce que les paroles de Dieu venaient dans leur bouche. « Toute Écriture, vous dites. » Eh bien, comment savez-vous que cela ne continue pas aujourd'hui? Dieu porte encore des hommes saints de Dieu. Dieu souffle encore. Je vais vous montrer. Regardez Jude 3, une petite épître juste avant le livre d'Apocalypse. Il est dit ceci, Jude 3. « Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant, afin de vous recommander. Écoutez à présent ceci. De lutter pour... Et voici ce qui est dit dans la version grecque. La foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Regardez les mots lutter pour. Il s'agit du terme grec epagonizo. La racine est agonizo. Et cela signifie se battre, agoniser, lutter. Et vous ajoutez une préposition devant, ep. Et cela veut dire lutter avec intensité, défendre vigoureusement, verser son sang si besoin. De même que Jésus a transpiré de grosses gouttes de sang en signe d'agonie. Il s'agit de se battre pour la pureté de la révélation de Dieu. Et qu'est-ce que c'est? C'est la foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes. Laissez-moi à présent vous poser une simple question. Combien de fois a-t-elle été transmise? Une fois pour toutes. L'Écriture tout entière porte sur la foi. Le terme foi est employé dans Galates 1, verset 23. Dans 1 Timothée 4, verset 1. Dans ces passages, il est question de la foi objective, la vérité, le contenu de la révélation, la parole inspirée de Dieu, et il s'agit de hapax en grec, une fois pour toutes. Cela fait référence à quelque chose qui est fait une bonne fois pour toutes, à jamais, avec des résultats durables, qui n'a plus besoin d'être répété, qui ne nécessite aucun ajout. La foi était accordée au saint une fois pour toutes, sans qu'il y ait besoin de le refaire. Maintenant, ce verset dit que Dieu a soufflé l'Écriture, et l'a donné au travers des hommes saints, selon Pierre. Il a ensuite déposé cela dans un corps, et l'a délivré une fois pour tous les temps et pour tous les saints, sans qu'il y ait besoin de faire un quelconque ajout. Il s'agit de la foi qui a été transmise aux saints, une bonne fois pour toutes. Bien-aimés, cela commence à la Genèse, et se termine à l'Apocalypse, et c'est tout. Pourriez-vous imaginer le chaos absolu, total et désespéré, qui s'installerait si nous ouvrons la porte à tout genre de révélation à travers l'histoire? Nous ne saurions même plus où nous en sommes, qui a raison, qui a tort. Ce livre dont je vous ai parlé, « Dieu vous parle, comment reconnaître la voix de Dieu ?» Le dernier chapitre est intitulé « Comment distinguer entre la voix de Dieu, celle de Satan et sa propre voix ?» Et il y a consacré 10 pages, et quand il termine, il dit « Je ne le sais pas vraiment, mais soyez prudents. » C'est exact. Se contenter de faire attention, ça n'aide pas. Quels sont les critères ? Qu'il s'agisse du livre des Mormons, ou science et santé, avec la clé des Écritures, ou les révélations charismatiques, ou quoi que ce soit que cela puisse être, quand nous commençons à ajouter des choses à la Bible, alors nous nous retrouvons dans la confusion. Qui a raison, qui a tort? Elle a déjà été transmise. Il s'agit d'un participe passif aoriste. C'est arrivé une fois. Il s'agit d'un acte passé, sans élément de continuité. C'est ce que signifie un passif aoriste. L'Écriture constitue le corps d'enseignement complet et final de Dieu. On ne doit rien y ajouter. On ne doit rien en retrancher. Quelle confusion et quel chaos lorsque tout le monde continue de recevoir des révélations de Dieu. Que faire de ces revendications modernes? Quel lien entretiennent-ils avec l'autorité finale qu'est la parole de Dieu? La chanson « The King is Coming » se trouve-t-elle au même pied d'égalité que l'Écriture? La vision qu'un individu reçoit dans une église doit-elle être mise au même niveau que l'Écriture? Mince alors, c'est déconcertant. Dewey Bigle est un théologien moderne et il est ni orthodoxe, c'est-à-dire qu'il est ni un croyant évangélique, ni quelqu'un qui croit fondamentalement en l'inspiration biblique. Il déclare croire en l'inspiration et en la révélation continue. Cela se poursuit tout simplement. C'est un néo-orthodoxe, et les néo-orthodoxes ont ce genre de croyances. Ils nient les questions de la réalité historique. Ils renient l'histoire de la Bible. Ils cherchent à renier la réalité de certains miracles rapportés dans la Bible. Ils réfutent l'infaillibilité. Ils refusent l'inhérence. Ils nient l'inspiration verbale. Ils refusent la pleine inspiration. Ils disent « Eh bien, quand cette Bible s'adresse à vous, elle est inspirée. Quelque chose vous happe d'une certaine manière. » Bigle prétend par exemple et revendique que certains écrivains d'igmes sont plus inspirés que les auteurs de la Bible. Il dit, par exemple, si Isaac Watts avait vécu à la même époque que Salomon, les igmes d'Isaac Watts auraient figuré dans la Bible, et non le cantique des cantiques de Salomon. C'est beaucoup plus inspiré. C'est de l'hérésie. Pour moi, cela constitue de l'hérésie pure. Et ce qui est si effrayant, c'est que ces points de vue, les opinions de Dewey Bigle, sont identiques à celles de Rothman Williams, qui se trouve être le président du séminaire charismatique de Melodyland, et en fait la raison pour laquelle les deux sont capables de s'entendre si bien, la raison pour laquelle l'organisation charismatique peut se permettre d'avoir ce genre de président, c'est parce qu'en réalité, ils ont tous les deux le même point de vue, c'est véritablement la même opinion. Les charismatiques ont des myriades de revendications selon lesquelles Dieu leur parlerait, et les néo-orthodoxes disent la même chose. Un pasteur m'avait dit ceci. Dieu lui avait accordé une vision de l'avenir de son église. Dieu lui a dit, « Tu auras cette zone qui est là. » Alors il est monté en avion, il a survolé la zone et l'a prise en photo. Il a survolé l'endroit, l'a photographié et l'a affiché sur un tableau et a dit, « Ceci est réclamé pour Dieu. » J'ai donc dit, « Comment le savez-vous ? » Il m'a dit, « Dieu me l'a donné à travers une révélation. » Cela arrive tout le temps. Tout le monde reçoit des révélations de Dieu. Rodman Williams est charismatique. Par ailleurs, c'est un néo-orthodoxe, avoué et assumé. Il l'a fait connaître publiquement. Dewey, Bigle et lui sont main dans la main, parce qu'ils argumentent tous les deux en faveur de la révélation continue. Écoutez ceci. Voici ce que dit Rodman Williams, le charismatique. À présent, parlons un peu plus de ce qui est étonnant dans la prophétie, à savoir qu'en elle, la parole de Dieu est directement déclarée. C'est contemporain. Dieu donne encore sa parole. Dieu parle à travers la prophétie. C'est aussi simple, profond et étonnant que cela. Ce qui se passe au cours des réunions de culte, c'est que la parole peut soudainement être déclarée par n'importe qui est présent. Et ainsi, ainsi parle le Seigneur, peut invariablement éclater dans l'assemblée. C'est habituellement la première personne du singulier, bien que ce ne soit pas toujours le cas, comme par exemple, « Je suis avec vous pour vous bénir ». Et cela a le caractère direct d'une rencontre entre toi et moi. Cela vient non pas dans un langage céleste, mais plutôt dans la langue maternelle de la personne qui parle, avec ses inflexions, cadences et manières habituelles. En fait, il est même possible que le discours soit grossier et ne tienne aucun compte des règles de grammaire. Cela pourrait être un mélange de King James et d'une version moderne. Le débit pourrait être vacillant ou courant. À vrai dire, cela n'a pas beaucoup d'importance, puisqu'en prophétie, Dieu utilise ce qu'il trouve, et qu'à travers des instruments humains fragiles, l'Esprit déclare la parole du Seigneur. Il dit en outre, ce qui caractérise la prophétie, c'est que des paroles ne découlent pas de la réflexion ou préméditation humaine. En effet, il est possible que beaucoup de temps ait été accordé à la prière, à l'étude de l'Écriture et l'attente à Dieu. Mais lorsque la parole de Dieu sort, il s'agit de l'œuvre de l'Esprit sur et à l'intérieur de la pensée humaine, ce qui fait que le message déclaré, bien que dans une langue humaine, constitue une expression directe de Dieu. Maintenant, braves gens, cela fait peur. Dieu parlerait donc encore. Le prophète ne sait pas en réalité à l'avance ce qu'il va dire, tout comme il ne sait pas de manière certaine quand cela viendra, ni même si cela viendra. Il se contente de parler, quand et selon ce que Dieu veut. Par conséquent, Il n'y a pas de prévision de prophétie lors des assemblées. Cela arrive, c'est tout. C'est ridicule, à la lumière de 1 Corinthiens 14, qui dit « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes », en opposition totale à cela. Par ailleurs, il dit « Tout ceci, pour répéter, est assez surprenant et étonnant. La plupart d'entre nous, bien sûr, étaient accoutumés aux déclarations prophétiques telles que rapportées dans la Bible et disposés à accepter cela comme étant la parole de Dieu. Nous étions habitués au « Ainsi parle l'Éternel » d'Ésaïe et Jérémie. Mais d'entendre Tom ou Marie aujourd'hui, au XXe siècle, parler de la même manière, plusieurs d'entre nous étions convaincus que la prophétie s'était arrêtée avec le Nouveau Testament. Jusqu'à ce que soudain, à travers l'impulsion dynamique du Saint-Esprit, la prophétie ait à nouveau pris vie. Aujourd'hui, nous nous demandons comment nous avons pu mal lire le Nouveau Testament pendant si longtemps. Fin de citation. Cela constitue clairement une revendication que les présents exemples de prophéties et révélations charismatiques sont d'inspiration divine, au même pied d'égalité que l'Écriture. Lorsque Tom et Marie se mettent debout, cela est équivalent au moment où Ésaïe et Jérémie se sont levés. Et cela vient d'un homme qui préside un séminaire charismatique de renom. Savez-vous ce que cela va faire? Ça va miner la crédibilité des Écritures dans l'esprit de ses étudiants. Vous dites, mais nous croyons toujours en la parole de Dieu. Oui, mais comme l'a dit Francis Schaeffer, attendez que la prochaine génération arrive et manifeste qu'il lui manque la pluie que nous avons en l'autorité biblique. Cela va les branler. Et je crois que si le mouvement charismatique reste longtemps dans les parages, en soutenant ce genre d'opinion sur les Écritures, ils vont se retrouver dans une hérésie qui dépasse tout ce que nous avons déjà vu jusque-là. Je me trouve là où la réforme était lorsque les réformateurs sont arrivés et ont dit « Sola Scriptura » et ils disaient « Si vous allez au-delà du caractère sacré de l'Écriture, vous êtes en difficulté. Vous coupez l'herbe sous les pieds de l'autorité biblique. À partir du moment où on commence à considérer l'Écriture inférieure à l'autorité suprême pour la foi et l'expérience, on ouvre la porte à l'hérésie. On a ouvert la porte au chaos. On a ouvert la porte à la confusion. On a ouvert la porte à Satan. » Melvin Hodge est pasteur dans les Assemblées de Dieu. Il a écrit un livre intitulé « Les dons spirituels » que j'ai acheté à Seattle et que j'ai lu. Il était très intéressant. J'étais de tout cœur avec ce cher monsieur, parce qu'il est dans le mouvement. Et il était très perplexe dans la rédaction du livre, à cause de ces gens qui sautent et donnent des révélations de la part de Dieu. Il dit effectivement que d'une certaine manière, dans ce mouvement, il appelle les autres pasteurs pour leur dire « Les gars, quelque part dans ce mouvement, nous devons ramener de l'ordre dans ce chaos, parce que nous, dit-il, et il affirme ceci, lorsque quelqu'un se lève dans votre église et donne une parole de la part de Dieu, deux choses sont possibles, soit c'est crédible, soit ça ne l'est pas. Imaginez une telle confusion. » Et il dit, il en résulte un chaos. Eh bien, vous pouvez imaginer la situation. Supposons que vous soyez en train d'essayer de prendre une décision par rapport à un pasteur. La congrégation se réunit pour prendre une décision à propos de ce pasteur. Et quelqu'un se lève et dit, « Ainsi parle le Seigneur, ce n'est pas la bonne personne. » Malheur à vous si vous la choisissez. Vous savez qu'il y a deux possibilités. Soit c'est Dieu, soit ce n'est pas Dieu. Comment le savoir? C'est cela son agonie. C'est ça sa bataille. Il ignore comment faire pour savoir. Les gens qui ont écrit le livre dont un chapitre porte sur comment faire la différence ne savent pas non plus. Lui non plus ne savait pas. Il a donc dit, soyez prudents. Je vais vous dire une chose. Les auteurs de l'Écriture savaient quand Dieu avait parlé. Ils le savaient. Ils le savaient. Mettre des déclarations prophétiques modernes au même pied d'égalité que la révélation produit un embrouillamini désespérant. Qui a raison? Pourquoi? J'ai entendu des gens dire « Eh bien, vous connaissez tel verset? Oh, Dieu m'a parlé. Et il m'a dit que ce verset signifie ceci et cela. Et pourtant, cela ne signifie rien de tout ça. Mais ensuite vient quelqu'un d'autre et dit « Oh, comme c'est merveilleux. Je dirais « Où est votre intégrité? N'avez-vous donc pas de ligne directrice ?» Écoutez, Dieu nous a donné une révélation. Vous voulez entendre quelque chose d'intéressant? Dieu nous a donné une révélation, n'est-ce pas? Et lorsqu'il a terminé la première partie de cette révélation, l'Ancien Testament, vous vous rendez compte qu'il y a eu 400 ans de silence, au cours desquels Dieu n'a rien dit. Et Dieu était en train de définir un modèle pour nous, une analogie. Il y a un temps pour la révélation, ensuite, il y a un terme à la révélation. Puis Dieu garde le silence. Et il est resté silencieux pendant 400 ans. Et il n'y avait aucun prophète en Israël, dit l'Ancien Testament. Et à la fin des 400 ans, Dieu a rompu le silence avec un prophète. Qui était-ce? Jean-Baptiste. et depuis Jean-Baptiste jusqu'à 96 après Jésus-Christ, Jean l'apôtre, Dieu nous a donné le Nouveau Testament. Et ensuite Dieu s'est tu, et le silence de Dieu sera à nouveau rompu dans Apocalypse chapitre 11, lorsqu'à la fin des temps deux prophètes apparaîtront et commenceront à nouveau à parler de la part de Dieu. Cependant, nous sommes dans la période de silence. L'Écriture a été transmise une bonne fois pour toutes. Écoutez Hébreux 1, verset 1. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. C'est l'Ancien Testament. Et maintenant, dans ces jours, qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il s'agit du Nouveau Testament. Et ce sont les deux périodes où Dieu a parlé. C'est deux fois, et en 96 après Jésus-Christ. Il s'est tu. Bien aimé, la Bible suffit. Elle est suffisante. Et j'ai bien peur que nos amis charismatiques, avec leur incessante révélation, ne soient pas seulement en train de détruire l'autorité et le caractère absolu de l'Écriture, mais ils s'exposent également à aller d'erreur en erreur en termes d'interprétation et de jugement, faisant des choses qui ne sont pas nécessairement le choix de Dieu pour eux. Écoutez ceci, car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve quoi ? Parfaitement préparé et équipé. De quoi avez-vous besoin pour être parfait ? Toute quoi ? Toute l'Écriture. Avez-vous besoin d'autre chose ? Avez-vous besoin de la vision d'un individu ? La révélation de quelqu'un ? Le parler en langue d'un individu ? L'expérience de quelqu'un ? L'interprétation d'une personne ? Non, vous n'en avez pas besoin. Vous savez quoi ? J'ai déjà suffisamment de mal à apprendre la parole de Dieu, sans avoir à courir le monde pour essayer de dénicher toutes les autres choses que Dieu a peut-être dites et validées, et tenter de voir comment les appliquer. Écoutez ceci, je vais le redire. Toute l'Écriture a été donnée par l'inspiration de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit quoi ? Parfait. Voilà tout ce dont vous avez besoin. C'est suffisant, bien-aimé. Et les gens qui recherchent quelque chose de plus, je crains bien qu'ils reçoivent effectivement quelque chose de plus. Toutefois, ce qu'ils reçoivent en plus n'est pas tout à fait ce à quoi ils s'attendent. Verset 15 de 2 Timothée 3 dit ceci. « Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut, sage, en vue du salut, parfait dans la maturité. Tout cela à partir de l'Écriture. Je ne pense pas que les charismatiques aient l'intention de saper l'Écriture. Vous les entendez dire combien ils aiment la parole. Je ne pense pas que ce soit leur intention. » Pourtant, quand ils favorisent la révélation continue et progressive, ils vont plus loin que la Bible. Écoutez-moi à présent. Je vais vous dire quelque chose d'important, et ensuite je vais m'arrêter. Ils agissent exactement de manière identique à ce que l'Église catholique romaine a fait à travers les âges. Ils sont en train de construire une tradition extra-biblique. Ils édifient ce qui résulte en réalité à la tradition charismatique, qui contraint les croyants autant que la parole de Dieu. Maintenant, certains charismatiques diront que je m'inquiète pour rien, et que j'ai mal compris. Aucun effort ne vise à changer l'Écriture. Ils se contentent de la clarifier et de la personnaliser. Braves gens. Il s'agit d'un jeu de mots. Ce sont tout simplement des jeux de mots. On ne peut pas tenir au caractère absolu de la Bible. On ne peut pas tenir à l'autorité de la Bible, et en même temps laisser libre cours à tout un tas d'autres révélations. À présent, j'aimerais taper du poing sur le pupitre pour défendre le fait que le Saint-Esprit opère des merveilles à travers le croyant. Je pense qu'il ravive l'Écriture. Je crois qu'il œuvre en moi, tandis que je prêche et enseigne, et j'écris et parle et rends témoignage et réfléchis et vis et en vous également. Et oh, c'est formidable, et il est merveilleux, et il est miraculeux, et il est divin. Mais appelez cela révélation, et nommez cela de l'inspiration et déclarez « Dieu m'a parlé, et Jésus m'a dit ». Revient à troubler la vérité et à tomber dans le piège de l'erreur qui réfute le caractère unique et l'autorité de l'Écriture. En agissant ainsi, vous avez fait exactement la même chose que Rome. Vous êtes en possession de l'Écriture et de la tradition, et les deux sont contraignants. Tous les faux systèmes qui ont jamais été engendrés par le christianisme, tous sans exception, chacun d'entre eux, et je vous en donnerai la liste la semaine prochaine, et vous montrerai de quelle manière tous ceux qui sont issus du christianisme et qui constituent de faux systèmes sont basés sur ceci. La Bible est une révélation supplémentaire. Tous sans exception. Très dangereux. Bien-aimés, essayons d'aider nos amis qui sont dans le mouvement à voir que ceci est suffisant. D'accord ? Père, Merci de nous faire prendre le départ ce matin. Aide-nous à marcher dans l'amour et aide-nous à combattre sérieusement, luttant pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Satan cherche à brouiller l'image. Aide-nous à la garder claire. Au nom de Jésus, pour sa gloire. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.